Le Décaméron, Mazet de Lamporecchio ou le paysan parvenu. Il y a dans notre pays un monastère de filles qui fut autrefois célèbre par sa sainteté. Il n'y a pas encore longtemps qu'il n'était composé que de 8 religieuses, sans y comprendre Madame l'abbesse. Elles avaient alors un très beau jardin et un très bon jardinier. Il prit fantaisie un beau matin au jardinier de les quitter, sous prétexte que les gages qu'on lui donnait n'étaient pas assez forts. Il va donc trouver leur intendant, lui demande son compte et s'en retourne au village de Lamporecchio, sa patrie. À son arrivée, tous les paysans, ses voisins, allèrent le voir et entre autres, un jeune drôle nommé Mazet, fort robuste et assez bien fait de sa personne pour un homme de village. Il lui demanda où il avait demeuré pendant la longue absence qu'il avait faite. Nuto, c'était le nom du vieux jardinier, lui répondit qu'il avait passé tout ce temps chez les nonnes. Et à quoi vous occupait-elle? Reprit Mazet. Oh! Ah, cultiver un beau et grand jardin qu'elles ont à leur portée du bois, que j'étais obligé d'aller couper dans la forêt, à puiser de l'eau, à mille autres travaux de cette nature. Mais ces dames me donnaient de si petits gages que je pouvais à peine payer les souliers que je vais. Et puis, c'est qu'elles sont toutes jeunes et turbulentes, en diable. Il n'est pas possible de jamais rien faire à leur gré. Elles ont pensé 20 fois me faire perdre la tête. C'était à qui me commanderait. Mais ceci en cet endroit, me disait l'une lorsque je paraissais au jardin. Ah non, 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 mets-les là, me disait l'autre. Et une troisième m'ôtait la houle des mains en disant. Oh, ceci va pas bien. Bref, me faisait si fort enragé que d'impatience je quittais quelquefois la besogne et sortais du jardin. Las de toutes ces tracasseries et de leur rire mal payé et de mes travaux, je n'ai plus voulu les servir. Leur homme d'affaires m'a fait promettre de leur envoyer quelqu'un pour les remplacer. Mais la place est trop mauvaise pour que je m'avise de la proposer à qui que ce soit. Ces dernières paroles du bonhomme Nuto firent naître à Mazet le désir d'aller offrir ses services à ses nonains. L'argent ne dépend pas ce qu'il touchait. Il avait d'autres vues. Et il ne doutait pas qu'il ne vînt à bout de les remplir. Quoi qu'il brûlât d'envie d'y être déjà, il crut devoir cacher son dessein à Nuto. C'est pourquoi il lui répondit qu'il avait bien fait de quitter ce monastère. Oh, on n'a jamais fini avec des femmes, ajouta-t-il. Quel homme pourrait y tenir? Autant vaudrait demeurer avec des diables qu'avec des nonains. C'est beaucoup de 7 fois 1, elles savent ce qu'elles veulent. Et à peine est-il sorti de chez le voisin qu'il commence à s'occuper des moyens de mettre son projet à exécution. Les travaux n'étaient pas ce qui l'inquiétait. Il se sentait très en état de s'en acquitter. Pour les gages, il s'embarrassait peu de leur modicité. Son unique crainte était donc de n'être pas accepté à cause de sa grande jeunesse. Cette idée le tourmentait, mais à force de réfléchir, il s'avisa d'un expédient qui lui réussit. Le monastère, dit-il en lui-même, est éloigné d'ici. Personne ne me connaît. Tâchons de contrefaire le muet. À coup sûr, j'y serai reçu, car je sais bien jouer mon rôle. Et le voilà qui se met aussitôt en pioche et une cognée sur ses épaules, et qui prend le chemin du monastère. Il entre dans la cour, où il rencontre heureusement l'homme d'affaires. Il aborde et le prie par des signes de muet de lui donner à manger pour amour de Dieu, lui faisant entendre s'il lui avait fait prendre du bois ou l'employer à quelque autre ouvrage, il ne demanderait qu'à travailler. L'intendant lui donna volontiers à manger. Puis, pour essayer son savoir-faire, lui montra de grosses souches que Nuto n'avait pu fendre. Mazer vint à bout dans un moment. L'intendant, charmé de sa force et de son adresse, le conduisit ensuite à la forêt pour couper du bois. Il lui fit entendre par des signes d'en charger l'âne qu'il avait amené et de le conduire au logis. Mazet exécuta ses ordres à la lettre. L'homme d'affaires, satisfait de son intelligence, ayant de l'ouvrage à lui donner, le garda plusieurs jours, durant lesquels l'abbesse, l'ayant aperçu, demanda qui il était. « Oh, c'est un pauvre homme, dit l'intendant, muet et sourd, qui va l'autre jour me demander l'aumône et du travail, et que j'ai employé à plusieurs choses nécessaires à la maison, desquelles il est assez bien acquitté. Oh, je pense que s'il était seul, labouré et cultivé la terre, et qu'il veuille rester, vous feriez très bien de le garder pour être votre jardinier. On pourrait en tirer toutes sortes de services. Il est robuste, vigoureux et de bonne volonté. Nous en ferions tout ce que nous voudrions, sans compter que vous n'aurez pas à craindre qu'il causât avec les religieuses. « Votre réflexion est très sage, répondit la mère abbesse. Voyez s'il sait travailler la terre et tâchez de le retenir. Commencez par lui donner un paire de vieux souliers, quelques vieux manteaux. Faites-le manger sans sou et amadouez-le au mieux que vous pourrez. Oh, mais vous serez satisfaite, madame. Comptez sur mon zèle à remplir vos intentions. » Mazet, qui non loin d'eux faisait semblant de nettoyer la cour, entendit distinctement cette conversation. Et plein de joie, il disait en lui-même, « Si vous me retenez ici, mesdames, je labourerai si bien votre jardin qui n'aura jamais été labouré de la sorte. » L'intendant le conduisit dans le jardin. Il fut aussi content de son ouvrage, de son labourage, qu'il avait été du reste, et lui demanda s'il devait demeurer et s'attacher au couvent. Il lui répondit par signe qu'il ferait tout ce qu'on voudrait. Dès ce moment, il fut arrêté pour le service des nonnes. L'intendant lui prescrivit ce qu'il avait à faire et le laissa dans le jardin. La nouvelle du nouveau jardinier fut bientôt sue de toutes les religieuses. Elles allaient souvent le voir travailler et prenaient plaisir à lui tenir 1000 propos extravagants comme il arrive qu'on fête aux morts, aux muets. Elles se gênaient d'autant moins qu'elles étaient éloignées de soupçonner qu'il pût les entendre. L'abbesse, s'imaginant qu'elle n'était pas plus à craindre du nerf viril que de la langue, se mettait guère en peine. Et Mazet avait trop bien joué son personnage pour ne pas paraître un sot accompli aux yeux de toutes les religieuses, espérant d'en dissuader quelques-unes lorsqu'il en trouverait l'occasion. Elle se présenta d'elle-même. Un jour qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il était couché sur un gazon pour se reposer, deux jeunes nonnins qui se promenaient et passaient devant lui s'arrêtèrent pour le regarder. Il les aperçut, mais il fit semblant de dormir. Les deux poulettes le couvaient des yeux. « Oh, si je croyais, dit la plus hardie, que tu fusses discrète, je te ferais part d'une idée qui m'est venue plusieurs fois dans l'esprit, et donc assurément tu pourrais aussi bien que moi faire ton profit. Parlez en toute sûreté, je te promets un secret inviolable. Ben, je ne sais, reprit alors la petite effrontée, si tu as jamais réfléchi sur la contrainte où nous vivons dans cette maison. Aucun homme ne peut y entrer, à l'exception de notre vieil intendant et du muet. Et j'ai entendu dire à plusieurs femmes du monde qui sont venues me voir que tous les plaisirs de la terre doivent être comptés pour rien lorsqu'on les compare à celui que la femme goûte avec l'homme. Il est plusieurs fois entré dans l'esprit d'en faire l'épreuve avec cet imbécile, à défaut d'un autre. Ce beau muet est précisément l'homme qu'il faut pour cette expérience. Quand même il s'y refuserait et qu'il voudrait nous trahir, il serait malgré lui. Il est jeune, bien fait, et paraît assez vigoureux pour être en état de nous satisfaire l'une et l'autre. Vois si tu veux que nous fassions cet essai. Grand Dieu, que dites-vous là, ma sœur? S'écria l'autre nonin. Oubliez-vous que nous avons fait vœu de chasteté? Non, mais combien d'autres vœux ne faut-il pas tous les jours sans qu'on en exécute un seul? Oui, vous avez raison, ma sœur, mais si nous devenions grosses. Oh, c'est s'alarmer avant le temps et prévoir les malheurs de trop loin. Si cela arrivait, eh bien, nous prendrions alors des mesures pour nous en tirer, et nous trouverions des moyens pour le tenir caché. Après cette réponse, sa compagne, qui malgré ses craintes brûlait déjà d'envie d'éprouver quel animal c'était que l'homme, se contenta de lui demander comment elle s'y prendrait pour n'être pas aperçue. « Oh, que cela ne t'inquiète pas, » répondit la première. « Comme c'est l'heure de midi, je suis presque certaine que toutes nos sœurs reposent actuellement. Mais pour mieux nous en assurer, parcourons le jardin pour voir s'il n'y a personne. Rien ne nous empêchera ensuite de prendre cet homme par la main et de le conduire dans ce cabinet qui lui sert de mettre à couvert la pluie. » Tandis que l'une sera dedans avec lui, l'autre fera sentinelle sous la porte. Il est si sot qu'il se tiendra volontiers dans la posture que nous voudrions. Je me charge de mettre au fait s'il n'y est déjà. Mazet entendait cette élégante, édifiante conversation et sentait l'eau lui venir déjà à la bouche. Il les aurait volontiers prévenus. Mais, pour ne pas manquer sa proie, il crut devoir se laisser faire et attendre qu'elle le prise par la main. Les deux religieuses, s'étant assurées qu'il n'y avait personne qu'elles dans le jardin et qu'on ne pouvait les voir, allaient rejoindre le jardinier. Celle qui avait commencé le propos s'approche de lui et l'éveille. Mazet se lève. La nonnette le prend par la main et tout en le caressant, le mène droit à la petite cabane où il la suit en riant et faisant les niais. Et là, le drôle, sans se faire prier, satisfait les désirs de la pucelle avec assez d'adresse pour prévenir son embarras, sans pourtant se déceler. Celle-ci, satisfaite, fit place à sa compagne. Mazet joua également bien son rôle avec le nouveau personnage. Et comme on n'est ni honteux ni timide avec ceux qu'on croit imbéciles, elles voulurent l'une et l'autre, avant de quitter le muet, éprouver par plusieurs reprises s'il était bon cavalier. Et elles en demeurèrent toutes deux convaincues. Et depuis cet heureux moment, leur conversation ne roulait que sur le plaisir qu'on goûte entre les bras d'un homme. Et elles s'accordaient à soutenir que le plaisir était mille fois au-dessus de l'idée qu'elle s'en faisait faire. Je vous laisse à penser, d'après cela, s'ils retournèrent souvent dans le petit jardin, cabinet, et si elles surent prendre le temps et l'heure convenable pour aller s'amuser avec le bon muet. Cependant, il arriva qu'un jour, une de leurs compagnes les aperçut de sa fenêtre folâtrer avec lui et le suivre dans la petite cabane. Elle le fit même remarquer à deux autres religieuses qui étaient dans sa chambre. Ce trio jaloux résolut d'abord d'avertir l'abbesse, mais ensuite elles changèrent d'avis. Elles en parlèrent aux deux coupables, et s'étant accordées ensemble, elles partagèrent le péché et jouirent, comme les deux autres, des faveurs de Mazet. Cependant, il arriva qu'un jour, une de leurs compagnes les aperçut de sa fenêtre folâtrer avec lui et le suivre dans la petite cabane. Elle le fit même remarquer aux deux autres religieuses qui étaient dans la chambre. Ce trio jaloux résolut d'abord d'avertir l'abbesse, mais ensuite elles changèrent d'avis. Elles en parlèrent aux deux coupables, et s'étant accordées ensemble, elles partagèrent le péché et jouirent, comme les deux autres, des faveurs de Mazet. Il ne restait plus que trois religieuses qui n'eussent point de part au gâteau. Mais avec le temps, elles grossirent le petit troupeau du muet. Quel débrideur d'hommes, de nonnes, dira-t-on sans doute. Patience, patience, on n'est pas encore au bout de ces exploits. Madame Lavesse ne se doutait nullement de ce qui se passait. Les jeunes poulettes qui étaient sous sa direction avaient d'autant moins de peine à lui cacher leurs intrigues avec ce coq jardinier qu'elles étaient d'intelligence en toutes également coupables. Un jour, qu'elles se promenaient seules dans le jardin par un grand chaud, elle trouva Mazet qui dormait, couché à l'ombre d'un amandier. Il avait travaillé la nuit pour avoir peu de choses à faire pendant le jour. Quelques-unes des sultanes de son sérail se trouvaient dans leur temps critique et il y avait peu de temps qu'il avait donné aux autres leur ration. Il était en chemise à cause des grandes chaleurs et le vent lui avait levé au point qu'il était presque tout découvert depuis les cuisses jusqu'à l'estomac. À cette vue, la mère abbesse sentit l'aiguillon de chair se réveiller et elle succombe à la tentation comme l'avait fait Célonin. Elle tourne la tête de tous côtés et, n'apercevant ni n'entendant personne, elle éveille Mazet et le mène dans son appartement. Dieu sait comme elle en fut contente. Elle s'y garda plusieurs jours, quoique le religieux se plaignisse gravement de ce que le ruste n'était plus labouré dans le jardin. Et pour l'avoir fait bien manger, bien boire, bien travailler, elle le relâcha, mais dans l'intention de le rappeler dans peu de temps. Comme la commère aimait le jeu qu'elle lui faisait jouer, elle reniait par là la portion des autres, car ce bon jardinier tout vigoureux qu'il fêtait, ne pouvait plus les satisfaire toutes. Il comprit même que s'il continuait encore le train qu'il menait, il s'en trouverait très mal. Une nuit, étant donc couché avec l'abbesse, qui lui demandait plus qu'il ne pouvait donner, « Madame, lui dit-il, en rompant tout à coup le silence, je sais qu'un coq peut suffire à 10 poules, mais différemment 10 hommes peuvent-ils suffire à 1 femme ? Comment voulez-vous donc que je fasse, moi, qui en ai 9 à rencontrer ? Non, je n'y saurais plus tenir, madame. Mettez-y hors, je vous prie. Vous donnez-moi mon congé. » L'abbesse faillit se trouver mal d'étonnement. « Mais que veut dire tout ceci ? » lui dit-elle. « Je te croyais muet. »« Je l'étais en effet, » répondit Mazet. « Non pas de naissance, à la vérité, mais par la suite d'une maladie qui me fit perdre la parole. Et je viens de la retrouver tout à l'heure, et je rends grâce au Seigneur. » L'abbesse crut qu'il disait vrai, ou feignit d'en être persuadé, et lui demanda ce qu'il voulait dire avec ses 9 femmes à contenter. Alors Mazet lui raconta tout ce qui s'était passé. La dame, voyant que ses religieuses n'étaient pas plus sages qu'elle, et se doutant bien qu'elle n'ignorait pas non plus son intrigue avec Mazet, ou qu'elle le saurait tôt ou tard, prit le parti de se concerter avec elle pour pouvoir garder ce bon jardinier sans causer de scandale. Elle les fit appeler, toutes lui avouèrent de bonne foi ce qu'elle ne pouvait plus lui cacher. L'abbesse fut la première à rire de l'aventure. Elles délibérèrent unanimement qu'on ferait accroire aux voisins et aux autres personnes qui fréquentaient leur église que, par le secours de leurs prières et les mérites du saint sous les auspices duquel était fondé leur monastère, Mazet avait recouvré la parole. L'homme d'affaires étant mort depuis quelques jours, elles amenèrent à sa place Mazet et prirent des arrangements pour coucher avec lui chacune à son tour, avec promesse toutefois de le ménager dans la vue de le conserver plus longtemps. Mazet s'acquitta au mieux de sa tâche. Oh, il en acquit plusieurs nonillons, mais la chose fut tenue si secrète qu'on ne le sut dans le monde que longtemps après la mort de l'abbesse, et après que Mazet est déjà vieux, il prit le parti de s'en retourner chez lui, chargé de bien. Cette histoire fit alors beaucoup de bruit. On ne parlait que du jardinier parvenu, qui, après avoir passé sa jeunesse de manière la plus agréable, sortit très riche d'une maison où était entré presque tout nu. C'est ainsi que le ciel récompense ce qui bêche et arrose infatigablement le jardin altéré des pauvres nonains.